Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, dans l'agglomération manosquine, la collecte du verre est connectée et donne droit à des réductions dans les commerces. Explication dans un instant. Trois communes des Hautes-Alpes ont été réunies en 2016. Ribier fait donc partie de Valbuèche-Méouge. Chris Alessandri a interviewé le maire Gérard Nicolas. Pour cette période de Noël, les commerçants de Briançon relancent les éco-chèques. Des détails dans ce magazine. Le projet franco-italien Ampello est une avancée pour l'œnotourisme. Il s'est conclu à Pierrevert par l'inauguration du musée de la vigne et du vin. À Marseille, un supermarché coopératif et participatif ouvrira ses rayons au printemps. Colline Jutter rencontrait des futurs clients du Super Cafouche, c'est son nom. La 19e édition des cinémas d'Afrique se déroulera en présentiel au Pays d'Apt. L'interview de Marie Clem dans ce magazine. L'ensemble Télémac présente un voyage sonore de la musique classique à la musique contemporaine. Des détails dans un instant. Tri sélectif du verre connecté, DL Vaglo innove et récompense.
Compétence majeure de l'agglomération manosquine, la gestion des déchets plombe les finances de la collectivité et donc des administrés. Le tri sélectif est une piste pour réduire les tonnages d'enfouissement et d'incinération, mais aussi, il valorise les matériaux. Ainsi, papiers, plastiques et emballages sont collectés, auxquels s'ajoutent les déchets verts et le compostage individuel qui se développe. Il pèse lourd et il est volumineux. Le verre est aussi une valeur sûre du recyclage. Lorsque l'on parle tri sélectif, on peut toujours faire mieux, mais ça reste un geste volontaire et citoyen. C'est là que l'innovation de DL Vaglo intervient. Grâce à des bornes connectées, les apports volontaires sont comptabilisés et donnent droit à des réductions dans les commerces locaux. Encourager le tri, faire baisser les tonnages des ordures ménagères et soutenir le commerce local, voilà une proposition environnementale, concrète et simple. Dernièrement, le président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, Jean-Christophe Petrini, accompagné du vice-président en charge du dossier, Vincent Alvar, accueillait Sébastien Delannoy de la société Terradona et sa chargée de mission, Sophie Ballas, pour présenter ce dispositif qui va équiper toutes les communes de l'agglo. Grâce à une application ou une carte magnétique dédiée, chacun peut réduire ses déchets et bénéficier de réductions. Un geste qui fait clink, c'est le joli nom de l'appli. En charge de la gestion des déchets, Vincent Alvar revient sur cette action. Vincent Alvar, vous êtes vice-président de la DLVA. C'est un dispositif gagnant-gagnant que vous mettez en place.
Oui, c'est un dispositif gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tous les habitants et utilisateurs des colonnes de tri de verre sur le territoire de l'agglomération vont pouvoir bénéficier de points qu'ils vont pouvoir dépenser dans les commerces locaux. Donc il y a un véritable partenariat qui s'est fait entre l'agglomération, les commerçants, au bénéfice de tous les administrés du territoire de l'agglomération.
L'objectif, c'est d'augmenter la collecte de verre.
L'objectif, c'est d'augmenter la collecte de verre, c'est de diminuer surtout le verre qui va aller à l'enfouissement à Valensole, de façon à pouvoir augmenter le geste du tri, en sachant que le verre est recyclable à 100%. Donc oui, c'est augmenter surtout le geste du tri et diminuer l'enfouissement.
Et puis c'est un système qui est connecté également.
Oui, ce système innovant est donc connecté avec les téléphones portables. Il y a une application qui permet justement de collecter les points et puis d'avoir une visibilité sur à la fois l'implantation des colonnes de tri sur le territoire de l'agglomération, mais également une visibilité de tous les commerçants qui sont partenaires et des offres qu'ils peuvent mettre à disposition des usagers du territoire.
On peut dire que c'est un projet pilote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ?
On peut dire que c'est un projet pilote, effectivement. C'est le premier territoire du département qui va être équipé de ce dispositif-là, au bénéfice des 25 communes. Toutes les communes du territoire de l'agglomération en seront équipées.
Ça veut dire également qu'une collectivité comme l'agglomération est assez indépendante pour pouvoir utiliser ce type de système et pouvoir le concevoir.
Oui, la politique de la gestion des déchets, elle incombe à l'agglomération, à elle à y mettre les moyens qu'elle souhaite. Et c'est vrai que nous, au niveau de l'agglomération, on essaye d'avoir une multitude d'actions, que ce soit au niveau du verre, comme on est en train de le faire avec ce dispositif innovant, mais également sur d'autres actions, comme la distribution de composteurs pour les biodéchets. Et on travaille sur d'autres leviers d'action aussi également.
On est là sur une démarche citoyenne également vers les citoyens qui permet justement de réduire les déchets et donc les coûts de traitement des déchets.
Oui, ce coût de traitement qui augmente inexorablement. C'est vrai qu'on essaye de limiter cet impact-là. Il faut savoir que le budget de la gestion des déchets doit être équilibré avec la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Et donc on est obligé de mettre en place des actions qui vont limiter cette augmentation du coût.
Après le verre, on peut imaginer les papiers, les emballages dans les mêmes conditions.
On verra par la suite comment ça se passe. Il y a des dispositifs qui sont en train d'être travaillés au niveau de l'ingénierie sur tout ce qui est emballage. Donc pourquoi pas dans un avenir d'avoir aussi également ce même dispositif sur d'autres tris.
C'est un dispositif qui est installé sur tout le territoire de l'agglomération et vous avez prévu de mettre au moins un conteneur dans chaque commune.
Oui, c'est une véritable volonté qui est une équité sur l'ensemble des communes et une proximité aussi de façon à ce que chacun puisse avoir ce geste du tri facilité.
Valbuèche-Méouges, village agréable et bien rythmé.
Commune nouvelle depuis 2016, Valbuèche-Méouges est située à l'extrême sud-ouest des Hautes-Alpes et comprend les communes de Ribier, Antonave et Châteauneuf-de-Chabre. Son territoire s'étend le long du Buèche, bordant également le département des Alpes de Haute-Provence. Ribier est niché au cœur d'immenses vergers dont les fruits, pommes et poires ont une renommée internationale. Typiquement provençal, vous y trouverez tous les commerces, de nombreuses activités sportives et durant toute l'année, un calendrier dense d'animations et spectacles en tout genre. Un village bien agréable, doté d'un centre-ville spécialement requalifié pour le meilleur accueil qui soit. Pourquoi cette volonté d'animer aussi régulièrement le village? Gérard Nicolas, maire de Valbuèche-Méouges, répond aux questions de Chris Alessandri.
Le pourquoi, c'est assez simple, c'est que tous les villages maintenant, si vous créez pas des animations diverses et variées sous toutes leurs formes, très rapidement, les commerces n'arrivent plus à vivre, les commerces ferment progressivement, et après, c'est la spirale de la défaite, où un commerce ferme, un deuxième, un troisième, et ça devient un village mort, les jeunes ne viennent plus habiter ici, les écoles menacent de fermer, c'est la catastrophe. Donc pour rester un village très vivant, avec une école qui fonctionne, des terrains qui se vendent quand il se fait un lotissement et autres, on a choisi d'avoir un village animé sous toutes ses formes. Donc on organise toute l'année des concerts, du théâtre, des conférences, des rencontres, des formations. On met des salles à disposition aussi pour organiser tout un tas de réunions, ce qui fait venir du monde à Ribier. L'été, on organise du 15 juin à fin août, tous les vendredis soirs, un concert sur la place du village, ce qui ramène à peu près 300 repas aux terrasses des cafés. On organise des gros concerts les samedis avec des tributes. Cette année, par exemple, on a fait la tribute Tina Turner. L'année prochaine, c'est la tribute Johnny Hallyday. Donc tout ça, ça fait des grosses soirées où les commerçants travaillent beaucoup et où les gens découvrent le village et ont envie de venir et de revenir, voire d'investir au village. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus acheter des maisons à Ribier parce qu'ils ont connu Ribier à travers les animations. Ça leur a plu. Et ce côté village qui bouge leur a plu. On a refait le village aussi avec des calades, des pavés, une place du château sur laquelle on peut organiser maintenant du théâtre, des concerts de jazz et autres. Et ça a incité les gens à venir acheter ici plutôt qu'ailleurs. Donc c'est un pari gagnant.
Effectivement, il y a toute une subtilité. Il y a par exemple ces salles dont vous parliez, la tournée des facteurs. Vous assurez l'instant de pause, le moment de pause. Vous ouvrez les salles pour les facteurs qui tournent sur le secteur.
Oui, parce que les facteurs qui tournent dans le coin... ont le midi un temps de pause réglementaire et puis c'est le temps pour casser la croûte. Donc ils n'avaient pas de base pour s'installer le midi. On leur a mis une salle d'une trentaine de mètres carrés avec frigo, micro-ondes et ainsi de suite. Donc ils ont la clé de la salle. Et le midi, il y a plusieurs facteurs, 2, 3, 4 facteurs, ça dépend un peu des périodes, qui se retrouvent là pour casser la croûte. Du coup, ça fait venir ces facteurs au village. Une fois qu'ils ont cassé la croûte, ben autant ils vont boire le café au bistrot du coin et ainsi de suite. Et ça fait une animation supplémentaire. On met des salles à disposition pour des assemblées générales et autres. La seule condition, c'est que quand ils organisent un apéro ou un petit buffet ou autre, ils achètent la marchandise aux commerçants de la commune. Donc nous, on prête la salle, mais en échange, ils doivent acheter les produits sur la commune, la boulangerie et autres. Donc tout ça, ça fait venir du monde au village, ça fait travailler les commerçants. Là, par exemple, on organise une journée pour les centres équestres du 04 et du 05 sur toutes les nouvelles législations. On met la salle à disposition gratuitement, mais par contre, le buffet et tout sera organisé par les commerçants. On organise toute une journée sur l'éco-construction. Ça sera le 13 novembre, donc à la salle à Ribier, où il y aura une formation, une information pour les élus sur les nouvelles éco-constructions. Il y aura des stands pour le tout public, avec aussi des petites formations et informations. Bon, ben là, c'est pareil, on a prêté la salle, mais d'un autre côté, on aura beaucoup de monde, puisque les élus pour assister à ces formations, et il y aura des visiteurs un petit peu de partout pour venir découvrir tous ces nouveaux matériaux d'éco-construction.
Gérard Nicolas, est-ce qu'on retrouve chez vous, en tant que maire de Ribier, l'esprit de chef d'équipe que vous êtes et que vous connaissez bien aussi, chef d'entreprise ?
Oui, je reconnais que je gère un peu la commune comme une entreprise. Parfois, certains me le reprochent en disant « mais il se prend pour un chef d'entreprise et alors que c'est une commune ». Je vois pas bien comment on peut gérer, par les temps qui courent, une commune différemment d'une entreprise. Puisqu'on a les mêmes soucis financiers, on a des fiches de paye toutes les fins de mois à faire, on a des charges à payer, on a tout un équilibre financier à trouver dans les budgets. Les recettes sont en général plutôt à la baisse dans toutes les communes, donc il faut arriver à maintenir nos recettes. Et c'est avec toutes ces activités où on arrive à maintenir un budget assez important par rapport à la taille de la commune et à réaliser beaucoup de chantiers, puisqu'on investit quand même plus de 2 millions par an sur la voirie, les aménagements de village, les rénovations de bâtiments. Donc oui, je pense qu'il faut gérer une commune comme une entreprise. Hein. Et il faut, comme une entreprise, créer chaque jour une dynamique pour avancer. On a par exemple ce soir une réunion de travail avec les élus pour préparer les 4 prochaines années. Ce qui est souvent reproché aux élus, c'est de un petit peu trop regarder le bout de leurs chaussures plutôt que se projeter à distance. C'est pas facile de se projeter à distance et c'est pourtant indispensable. Parce que si vous gérez à courte vue, vous n'avez pas le temps de préparer en amont des dossiers pour récupérer des subventions, des aides. On essaie de vraiment, vraiment travailler sur les années à venir. Et là, depuis que je suis conseiller départemental pour le canton de Laragne, on fait avec tous les maires des 11 communes du canton une réunion tous les 3 mois pour essayer justement de se projeter sur les prochains aménagements au niveau du canton, de façon à avoir aussi une gestion du canton un peu comme une entreprise, où on se projette, où on met des projets différents, aussi bien sur la voirie, sur la rénovation du petit patrimoine, tout un tas de sujets comme ça. On envisage d'avoir un label. Sur la commune, on vient d'avoir un label « Territoire engagé pour la nature ». Donc c'est un très très beau label qui va être porteur pour l'économie touristique. C'est une très très belle image, mais c'est aussi un cahier des charges, puisqu'on s'est engagé à réaliser des chantiers avec cette ligne de conduite « Territoire engagé pour la nature ». On est pour l'instant la seule commune des Hautes-Alpes à avoir ce label. 2 ou 3 l'ont maintenant dans le 04, tels que Vollone, par exemple. Mais on va essayer de généraliser ce label sur l'ensemble du canton du Laragnier, de façon à ce que des touristes qui sont, par exemple, à Strasbourg ou à Paris ou autres, qui cherchent à venir en province, aient envie de venir sur le canton du Laragnier en disant « c'est un territoire avec un label « territoire engagé pour la nature », donc on peut s'attendre à une qualité de vie ». Je pense que ça sera une belle, belle image pour le canton.
Le retour des éco-chèques.
L'association Les Enseignes de Briançon relance cette initiative suite à de bons retours. Une proposition qui a un bon écho dans le Briançonnais. Cette année encore, les entreprises peuvent bénéficier d'une défiscalisation jusqu'à 171 euros par salarié pour les primes de fin d'année grâce aux éco-chèques. Ils sont valables un an dans près d'une centaine de commerces briançonnais. Ils sont également disponibles en lot, en dotation ou en bon cadeau pour vos clients. Tiffany Buffomen est animatrice aux enseignes. Elle répond aux questions de Laura Giraud.
Tiffany Buffomen, vous êtes animatrice aux enseignes de Briançon. On va reparler des éco-chèques.
Tout à fait, puisque c'est la bonne période de l'année pour en parler. Les éco-chèques, donc, qui sont les chèques cadeaux locaux de Briançon, qui sont encaissables uniquement par les commerces briançonnais, je le rappelle.
Donc, ces éco-chèques, on peut, par exemple, offrir une petite prime grâce à eux, à ses salariés. Comment on fait ?
C'est ça, donc on peut offrir des primes plusieurs fois dans l'année. La plupart du temps, c'est pour les primes de fin d'année. Donc jusqu'à 171 euros par salarié, ça peut être défiscalisé. Pour en commander, il suffit de contacter le bureau des enseignes de Briançon. Vous pouvez maintenant les acheter en dématérialisé, ce qui est encore plus rapide qu'avant, puisque sous 24 heures, vous pouvez acheter des éco-chèques et les offrir à vos salariés. Je rappelle que les éco-chèques sont sans frais. On prend aucun frais pour acheter ces chèques cadeaux et en plus, les commerçants ont zéro commission lorsqu'ils les encaissent. Aujourd'hui, grâce à l'application EcoCheck, ce système est devenu plus moderne, ce qui fait que maintenant, vous pouvez garder vos EcoCheck tout le temps sur votre téléphone et dépenser à l'euro près l'argent que vous voulez en EcoCheck. Ils sont valables un an dans plus de 80 commerces du Briançonnais. Ça va sur un très large rayon puisque ça peut aller du bien-être à la restauration, aux grandes surfaces, au sport, aux jouets, au textile. Vous avez vraiment un très large choix.
Donc un bon moyen de faire plaisir à ses salariés.
Tout à fait, ils sont heureux pour la fin d'année d'avoir des éco-chèques. Je rappelle que pour en commander, il suffit de contacter le bureau des enseignes au 06 14 69 86 02. Vous pouvez aussi commander directement en ligne sur notre site internet lesenseignesdebriançon.fr.
Pierre Vert, pour clore en pélo, un musée et des amis italiens.
In vino fraternitas, pourrait-on dire, paraphrasant les Romains. Car le projet transfrontalier entre la Haute-Provence et le Piémont a créé de réels liens d'amitié. Soutenu par l'Europe via les fonds Interreg, les Alpes de Haute-Provence d'une part et le territoire de Langhe-Ruero dans la province de Cuneo ont bénéficié durant 4 ans d'un programme ambitieux. Doté de 800 000 euros, ce projet a été un accélérateur de compétences. L'objectif, échange d'expériences et d'actions pour favoriser le no-tourisme. Avec des produits emblématiques, lavande, miel, fromage et vin pour la Haute-Provence et en face, entre autres, la truffe blanche d'Alba, les noisettes du Piémont et bien sûr le Barolo, fameux nectar transalpin. Des dossiers d'abord fastidieux, puis des voyages d'études, des visites de part et d'autre et au final, pour les basalpins, des pistes pour développer le no-tourisme. Car le territoire est riche en exploitations viticoles, les vins produits sont de qualité, mais les producteurs se penchent rarement vers les visiteurs, sauf pour la vente directe. Aujourd'hui, cela ne suffit pas, il faut structurer et valoriser l'offre. La clôture du projet a donné lieu à deux événements. D'abord, l'inauguration officielle du musée de la vigne et du vin de Pierre Vert, dont l'aménagement et la rénovation sont des réussites, puis les discours de clôture et un film retraçant l'aventure en pélo. Dans la salle, des acteurs français et italiens, mais aussi plusieurs vignerons, messieurs Seguin, Jérôme, Delsuc, Espitalier, Derbès, Monteil, etc., et leurs partenaires, Office communautaire de la DLVA et Université des saveurs et senteurs de Fort-Calquier notamment, qui se sont investis aux côtés de leurs homologues piémontais pour l'occasion. Une délégation transalpine était naturellement de la fête. Et chacun de souhaiter un Ampello 2 pour renforcer les liens tissés et faire progresser le no-tourisme. Je vous propose d'écouter deux des acteurs essentiels de l'action, Timothée Espitalier pour l'ODG, Organisme de Défense et Gestion Vin des Alpes du Sud, puis l'instigateur de l'action, Olivier Bagary, qui de l'UESS de Fort-Calquier hier au bureau d'Alcotra à Turin aujourd'hui, a accompagné Ampello avec bienveillance. Timothée Spitalier, vous êtes le coprésident de l'ODG. Est-ce que vous êtes satisfait de cette clôture d'Ampello ?
Je suis très satisfait de cette clôture d'Ampello. C'est un moment de partage et pour moi, comme je disais, c'est plus un début qu'une fin. On clôture un projet, mais qui nous ouvre sur une multitude de projets. Et ça nous a fait prendre conscience, peut-être de nos défaillances, mais ça nous a permis aussi de les comprendre, de les régler et d'avancer. Et ça, c'est vraiment le fondement de ce projet-là. C'est ce qui nous a fait travailler ensemble, avec les Italiens et aussi ensemble, entre tous les producteurs et tous les acteurs des Alpes-de-Haute-Provence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me restera gravé. Tous les voyages d'études, le premier voyage à Alba pour Vinum, ça, c'est vraiment des moments où on a beaucoup appris. On regarde avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie. Et je pense que l'avenir, notre avenir au niveau de l'œnotourisme, est dans cette veine-là.
C'est véritablement un atout ?
C'est un atout, c'est une caisse à outils, c'est une caisse à idées, ça nous permet de voir les choses pour l'avenir. Et ça, c'est hyper important.
Et est-ce que de Quinçon, Pierre Vert, on s'est fait des amis à Cavour, par exemple ?
Ah, on s'est fait des très bons amis. On a rencontré des gens merveilleux, Elisa, Marco, avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui on est beaucoup partis en voyage. Ça, c'est du côté italien. Marco, le responsable de l'œnothèque de Gritsan Cavour. Et Elisa, qui a été tout le temps là, qui parle français, qui accepte mon italien balbutiant. Et puis du côté français, j'ai pu enfin vraiment rencontrer Gilles Delsuc. On a fait tous les voyages ensemble. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé. Et puis j'ai pu rencontrer Olivier aussi. Tout ça, c'est une aventure humaine, mais aussi c'est une aventure intellectuelle. Le fait de réfléchir à l'avenir et à comment construire l'œnotourisme dans les Alpes de Haute-Provence, ça c'est vraiment un super beau challenge et on est vraiment au tout début. On a les outils, à nous de passer à la vitesse supérieure en gros.
On va suivre ça avec grand intérêt à vos côtés. L'artisan, la cheville ouvrière de ce projet Ampello, Olivier Bagary, on l'a connu directeur de l'USS à Fort-Calquier. Et puis maintenant, il est secrétaire conjoint d'Alcotra, autrement dit les fonds européens pour ce type de projet. Ampello, ça vous doit beaucoup.
On va dire c'est une aventure collective. Hein. Après, il faut une petite main pour écrire, pour rassembler les gens. Voilà, pour développer les idées, et j'étais là à ce moment-là. Le projet, il est parti du besoin des producteurs, de la filière et des territoires. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est à l'époque, hein, c'est le mettre ensemble, trouver un fil conducteur et essayer justement ensuite de voir avec qui on pouvait travailler ces thématiques-là. J'avais déjà des contacts à l'époque dans le Piémont. Très facilement, on s'est rapproché de l'Office du tourisme des Langues Roero et de l'œnothèque régionale de Grinzane et Cavour pour élaborer ce projet. Et puis, avec nos homologues italiens, on a ardemment travaillé, y compris parfois pendant plusieurs week-ends, pour à l'époque faire ce projet, cette candidature, qui a été retenue par l'Union européenne dans le cadre d'un appel à projet en 2016, qui s'était clôturé en 2016. Et puis le projet, après, est parti en 2017. Il se clôture aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur, puisque bon, maintenant je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ça fait chaud au cœur de revoir les collègues avec qui j'ai pu travailler, mais surtout de voir voilà, tout ce qui a été réalisé, de voir que l'argent a été bien utilisé, parce qu'il y a des choses concrètes, c'est-à-dire il y avait vraiment eu des montées en compétences des personnes, il y a des outils touristiques avec le musée ici du vin à Pierre Vert, mais aussi le parcours touristique a été aménagé à Grinzane. Donc on est satisfait à la fois de la qualité des activités qui ont été réalisées, de ce qui reste sur le terrain, de savoir qu'en fait la dynamique elle se poursuit parce que les gens se sont parlé, ils se sont découverts, ils ont vu qu'ils pouvaient aller plus loin, c'est-à-dire que les frontières qui s'étaient eux-mêmes créées, ils les ont fait disparaître et ils se sont ouverts à un imaginaire qu'ils ne pensaient pas pouvoir possible. Voilà, donc là comme le disait Timothée, aujourd'hui effectivement il y a une nouvelle page blanche qui peut s'écrire. Maintenant à eux aussi ils ont pris confiance sur leur capacité à faire autre chose et à se développer. On va dire maintenant pour le programme c'est une très grande satisfaction parce que ça rapproche des gens, on travaille sur la culture, on travaille aussi sur le développement économique parce que derrière, n'oublions pas, ce sont des hébergeurs, ce sont des restaurants, ce sont des vignerons qui travaillent. Donc ça c'est aussi important. On va dire qu'on coche toutes les cases et on est très satisfait des résultats du projet.
Vous avez remarqué également que les référencements, notamment sur Google, entre l'Italie et la France sont très différents.
Oui, ça fait partie effectivement des constats qu'on a vus sur Ampelo. Les référencements, ce qui est recherché, ce qui est publié par côté italien et côté français, c'est très différent. Ce qui veut dire que pour les professionnels du tourisme qui peut-être nous écoutent aujourd'hui, il ne suffit pas simplement de traduire dans une autre langue son site internet. Il faut penser à un site internet spécifique pour chaque nationalité, parce que chaque nationalité va avoir des attentes différentes. On l'a vu côté italien, où les recherches pour la destination touristique se font principalement à travers la nourriture. Donc ils recherchent des menus, des plats traditionnels, etc. Et pas forcément des paysages. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a découvert dans le cadre du projet, parce qu'on n'avait pas du tout cette approche-là et cette finesse de ce que recherchaient les Italiens. On a découvert que, par exemple, 2/3 des Italiens, lorsqu'ils sont en vacances, attendent de recevoir sur leur téléphone portable des messages les invitant à découvrir des produits touristiques là où ils sont en vacances. Partant de ça, il y a un certain nombre d'activités qui ont été développées. Sur la cave viticole de Quinçon, il y a des soirées dégustation qui ont été organisées sur juillet et sur août, qui sont tous les ans du coup maintenant organisées, qui ont été un vrai succès. Que ça, c'est une activité qui va se pérenniser maintenant et qui permet de parler du territoire, de parler du vin, de la culture de la vigne. En fait, c'est pas simplement vendre une bouteille de vin, c'est pas ça derrière qui est intéressant. C'est tout le discours. Les gens, ils vont repartir certes avec la bouteille, mais cette bouteille, ça sera un souvenir. Ça sera un souvenir de leurs vacances en Haute-Provence. Et quand, peut-être 6 mois après, 1 an après, ils déboucheront une bouteille de vin rosé de Haute-Provence, ils vont se remémorer leurs vacances, ils vont se remémorer les paysages, les bons moments qu'ils ont passés sur le territoire. Inversement, bien sûr, ça vaut également pour nos collègues italiens, hein, pour les touristes qu'ils accueillent. Du coup, ça va prolonger les vacances, ça va prolonger le souvenir et ça va peut-être les inviter à revenir, pourquoi pas, une prochaine fois visiter le territoire.
Coopératif et participatif, Super Cafouch ouvrira en mars.
On pourrait dire Mini Cafouch deviendra grand. L'épicerie marseillaise Pilote a permis d'expérimenter un concept de lieu de vente coopératif et participatif. Et demain, le Mini se transformera en Super. Super Cafouch va ouvrir ses portes au printemps 2022, rue Chevalier-Rose, dans le 2e arrondissement. L'objectif du futur supermarché est de proposer une large gamme de produits du quotidien tout en ayant vocation à rester un commerce éthique, respectueux de l'environnement et qui privilégie l'économie locale par des circuits courts. Colline Juté a interviewé 2 membres du Super Cafouch qui partagent la volonté que chacun et chacune ait la possibilité de participer activement à sa propre consommation.
Hugues et Chloé, vous êtes coopérateurs, coopératrices du projet Super Cafouch. Comment vous est venue l'idée de ce supermarché participatif ?
Je fais pas partie des fondateurs du projet et c'est principalement l'ouverture de la Louve à Paris, qui est le premier du genre en France, qui m'a donné envie de savoir s'il y en avait un à Marseille. Et ce qui me plaît dans le projet, c'est de contourner la grande distribution, d'avoir une alternative à la grande distribution qui soit portée par les citoyens, où il n'y a pas d'objectif de rentabilité.
Je suis devenue coopératrice assez récemment. C'est la même chose. Je cherchais une alternative à la grande distribution. Et puis, en tapant sur Internet, changer la façon de consommer au niveau alimentaire à Marseille, est arrivé le Super Cafouch. Donc, j'ai fait la démarche d'aller m'inscrire, adhérer et devenir coopératrice.
Et justement, en quoi ça consiste ce rôle de coopérateur, coopératrice ?
Alors, d'abord, on adhère à l'association et on prend des parts sociales. Aujourd'hui, on paye 10 parts sociales, ce qui représente 100 euros. Et ensuite, on doit faire contribuer à 3 heures de travail par mois. Donc, ça peut être différentes missions, mais notamment tenir la caisse, s'occuper du réassort dans le magasin et donc faire des créneaux. On appelle ça faire des shifts. Et il s'agit de faire des créneaux pour assurer l'ouverture du magasin.
Et tous les clients sont coopérateurs ou coopératrices ?
Oui. Être coopérateur du Super Cafouch, c'est à la fois être propriétaire du magasin, être client du magasin et être aussi celui qui ou celle qui le fait tourner au quotidien, quoi. qui réalisent les tâches quotidiennes.
Et c'est un modèle donc qui implique des gens qui sont bénévoles, mais aussi peut-être dans le futur projet de Super Arca Foods, des salariés pour coordonner toutes ces actions.
Tout à fait, ouais. En fait, le 80% du travail à peu près est fait par les coopérateurs. Mais du coup, il faut forcément des salariés. Vu l'ampleur du projet et la taille du magasin, le nombre de produits, etc., ce qu'on vise, c'est quelque chose qui ressemble à un supermarché de centre-ville. Il faut forcément des salariés qui soient là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour gérer les transitions entre les équipes qui changent toutes les 3 heures, et puis effectuer les tâches qui demandent le plus de suivi, comme la compta, les achats aussi, auprès des fournisseurs, et voilà.
Parce que les achats auprès des fournisseurs, c'est des choses qui sont décidées collectivement, en fait. Tout ce qui est disponible dans le magasin, c'est décidé collectivement.
Alors, donc là, aujourd'hui, au Minica Food, c'est donc l'espace test. On est sur un projet autogéré où, du coup, on a un groupe approvisionnement qu'on peut intégrer si on le souhaite. Et tout se décide au sein de ce groupe. Et voilà, après, au supermarché, plus vraisemblablement, ça sera les salariés qui auront d'abord la main là-dessus, mais qui seront accompagnés par les bénévoles qui seront motivés. En fait, ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'on a les exemples de ceux qui ont ouvert autour de nous. Et il y a le cas de Montpellier où en fait on a des salariés qui passent les commandes. Par contre, le choix des produits auprès des fournisseurs sont faits quand il y a des groupes structurés par des coopérateurs. Par exemple, il y a le groupe des œnologues qui s'occupe d'aller chercher des nouvelles références de vin qui fonctionne très bien à Montpellier par exemple. Et du coup, si c'est le salarié qui passe les commandes effectivement, parce que ça c'est voilà, une commande c'est récurrent, il y a une facture derrière, une livraison à gérer. Enfin, si c'est le salarié qui passe les commandes, bah le choix il est fait par les coopérateurs en fait. Et après le principe général, c'est à l'entrée du magasin on a une fiche où on peut demander un produit. On a remarqué que il n'y avait pas de, je sais pas, spiruline. On veut de la spiruline, on l'écrit sur la fiche. Et puis s'il y a plusieurs personnes qui demandent le même produit, les salariés ou les coopérateurs membres de groupes d'approvisionnement vont aller chercher ce produit quoi, dans la liste des fournisseurs.
Et il y a une charte quand même, où enfin il y a une idée de d'écrire quelque chose, un modèle de départ pour se dire on va choisir tel produit, on va aller dans telle direction. Parce que aujourd'hui à Marseille c'est le mini Cafouche qui est en place, qui est dans le 2e arrondissement, c'est ça?
Oui.
Et le Super Cafouche va rester dans ce quartier. Le nouveau projet, les locaux seront où?
Près de Sadi Carnot, à la rue Chevalier Rose.
Et du coup, dans ces magasins-là, est-ce qu'on va retrouver les mêmes produits qu'on va retrouver dans les supermarchés? Ou est-ce que justement, il y a une charte qui dit on va plus vers tel produit, etc. Comment ça se passe?
L'objectif quand même dans ce projet, c'est de se démarquer justement de la grande distribution et donc de proposer des produits de qualité. C'est aussi pour ça qu'on adhère au projet. Manger mieux et être maître de ce qu'on a dans l'assiette. Donc oui, on va vers des produits plus responsables. On va proposer aussi des produits bio, mais pas que. Et ensuite, on se veut aussi un projet ouvert de tout horizon social. Et donc, on propose aussi des produits à des tarifs plus raisonnables, quoi. Voilà, donc pas forcément que du bio. Okay. Et on va privilégier aussi tout ce qui est produits locaux.
Voilà. Locaux, zéro déchet, enfin, toutes les thématiques importantes par rapport à l'environnement, les conditions de travail des gens qui s'occupent de produire les produits. Mais en gros, l'idée, c'est d'être ouvert aux Marseillais dans leur ensemble le plus possible. Et du coup, c'est lorsque les produits dits responsables sont, par exemple, très chers ou alors avec un usage très particulier, c'est d'avoir aussi la version dite conventionnelle pour pouvoir être accessible à toutes les bourses. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas trop. Aujourd'hui, on a des magasins spécialisés, on a les supermarchés non spécialisés, et on essaye vachement. Tout le jeu du marketing, c'est de cantonner chacun à son petit sa petite chapelle, et ce projet-là, il est aussi une réponse à ça, quoi. L'idée, c'est d'avoir des gens issus d'horizons différents, avec des pratiques, des habitudes alimentaires aussi différentes, une conscience politique, des enjeux environnementaux et compagnie qui est pas forcément la même, qui se retrouvent pour faire quelque chose ensemble pour accéder à des produits de meilleure qualité que ce qu'ils consomment aujourd'hui à des prix accessibles, quoi.
Et donc du mini cafouche au super cafouche, la phase de test elle est bientôt finie, donc c'est un modèle qui fonctionne.
Alors oui, après le mini cafouche a pas forcément été pensé au départ comme vraiment un test de validation. Ça fonctionne dans le sens où on a des gens qui s'impliquent, qui s'intéressent, et ça permet de préfigurer le supermarché et qui s'impliquent dans des questions très concrètes de logistique, par du magasin, voilà. Après, c'est un modèle qui fonctionne, mais ça, à la limite, c'est plus les projets plus avancés, les supermarchés qui ont déjà ouvert en France, par exemple Montpellier, Toulon, Paris, Lille, Grenoble, alors la Coop sur Mer, la Cagette, le Super Quinquin, la Louve, il y en a d'autres à Paris. C'est plus la réussite de ces modèles-là qui nous dit que
ça va fonctionner.
Ça va fonctionner, ouais. Après, on a un engouement autour du Super Cafouche à Marseille. On a plus de 600, genre, je sais pas exactement à combien on en est aujourd'hui, mais 660 coopérateurs au moins. Donc, voilà.
Et c'est où qu'on peut vous retrouver, les prochaines dates de rencontres, peut-être d'apéro, ou est-ce que vous avez un site, des réseaux sociaux, etc.?
Alors oui, on a un site, supercafouche.fr, et vous pouvez nous retrouver tous les derniers jeudis du mois, de chaque mois, on fait un apéro des coopérateurs, mais on est ouvert, donc qui veut vient.
On a aussi tous les lundis une réunion d'information à l'épicerie, où du coup on présente le projet de A à Z, et puis on peut aussi simplement venir à l'épicerie, au mini-cafouche, aux horaires d'ouverture qui sont disponibles sur le site, voilà. Et après, on sera aussi présent sur d'autres événements, mais voilà, ça c'est les manières les plus faciles de nous rencontrer.
Les cinémas d'Afrique seront présents au Pays d'Apt.
Après un festival en ligne en janvier dernier, le 19e Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt accueille de nouveau le public du 10 au 16 novembre 2021 au cinéma Le César. Comme chaque année, c'est un programme de qualité qui sera proposé, avec des films de nombreux pays, la présence de plusieurs des réalisateurs, un accent mis aussi sur la participation du jeune public et un marathon vidéo ouvert à tous. Répondant aux questions de Mathieu Marc, la directrice du festival présente cette édition, Marie Clem.
On est vraiment très très heureux de retourner enfin en salle, de pouvoir accueillir du public, et puis on est très heureux parce qu'il y a quand même encore beaucoup de films qui se sont faits entre les films qui n'avaient pas pu être présentés depuis un an, et puis tout ce qui a pu être tourné, ça a été prouvé là avec les grands festivals des derniers mois, Cannes, Venise, Berlin, on a beaucoup de nos films qui passeront à Apt, qui ont été sélectionnés dans les grands festivals, et donc ça montre vraiment... Enfin, les cinéastes africains ont une visibilité sur la scène internationale comme il se doit parce que leurs films sont vraiment merveilleux. Donc, on aura la chance d'avoir Leïla Bouzid avec son film Une histoire d'amour et de désir, Yacine Knia qui était à Cannes également. On a Thébo Edkins qui était à Rotterdam, qui sera parmi nous. On a Ismaël El Iraki qui était sélectionné à Venise. Donc, vraiment, ça montre une émergence de ces jeunes cinéastes. Donc on est très heureux de l'accueillir. Et donc malheureusement, beaucoup de films de grande qualité n'ont eu que des petites sorties. Donc je pense que là, vraiment, notre rôle là de festival, tous les festivals en France, c'est de pouvoir donner de la visibilité à ces films.
Et cette année, il y a aussi un nombre de femmes cinéastes croissant.
Oui, on avait noté ça déjà les dernières années. Mais là, c'est vraiment... on n'a jamais eu autant. Sur le nombre de films global, on a 19 hommes réalisateurs et 14 femmes. Et donc, ça n'a pas du tout été un choix de notre part. Nous, c'est vraiment des critères cinématographiques et côté contemporain des films qui ont moins de 2 ans. Donc là, on est très, très heureux, effectivement, que les femmes aient toute leur place au festival. Alors, il y en a beaucoup d'entre elles qui seront déjà en train de tourner un nouveau film, donc qui ne sont pas forcément présentes. Mais on aura quand même Leïla Bouzid, on aura Aïssa Maïga. On est très honorés qu'elle vienne pendant 2 jours, elle va nous faire un grand entretien, présenter 2 films, présenter ses films en, en séance scolaire également.
Et vous parlez aussi de la diversité croissante des pays participants et de renouvellement de formes d'expression.
Oui, complètement. Et puis de certains pays qu'on ne voit vraiment que très très rarement dans des festivals avec des productions et des films qui tiennent vraiment la route. Un documentaire de Centrafrique absolument magnifique. On a un film du Lesotho aussi, qui lui aussi a été sélectionné dans des festivals. On a un film d'Angola. Donc voilà, ça c'est des pays qui sont très rarement représentés, entre autres chez nous. Essaye de diversifier pour avoir quand même un maximum de représentation, même si cette année, on est très heureux, le Maroc est à l'honneur. Pareil, ça a été un hasard dans leur calendrier de tournage, nous, de sélection, etc. Mais on a carrément 11 films, je crois que c'est jamais arrivé. On est un pays qui sont représentés avec 7 longs métrages, 4 courts métrages.
Il y a aussi une participation active du public scolaire, du jeune public.
Ça fait partie de nos priorités depuis le début du festival. Donc, on accueille les élèves du CM1 à la terminale, avec de toute façon toujours un débat, soit avec un intervenant et si possible avec le cinéaste présent. Donc ça, c'est une action qu'on fait toujours. Le festival n'a pas une vraie compétition officielle, mais il est représenté par des jurys jeunes qu'on appelait avant jury lycéens. Maintenant, on les appelle jurys jeunes parce qu'on a ouvert jusqu'à les 16-25 ans. Mais bon, la plupart d'entre eux sont encore scolarisés au lycée. Cette année, on aura 3 jurys. Un jury long-métrage documentaire, un jury long-métrage fiction et un jury court-métrage. Parce qu'ils sont très nombreux à suivre une formation depuis le mois de mars dernier. Donc nous, on fait passer l'info en fait auprès des jeunes, la cité scolaire, en ville, etc. Les jeunes viennent et font un parcours d'éducation à l'image pendant presque un an avec nous, parce qu'après le festival, ça continue aussi. On les emmène dans d'autres festivals, ils font des ateliers de pratique aussi vidéo, ils animent une émission de radio une fois par mois sur Comet FM. On les rend vraiment actifs, et puis pour nous, c'est le public de demain, c'est les jeunes citoyens de demain, donc c'est une priorité pour nous de travailler avec ce jeune public.
Et cette année, vous proposez aussi le 8e marathon vidéo. Réaliser un film de 3 minutes en 2 jours.
C'est ça, sur un thème imposé qu'on ne dévoilera que le samedi 13 novembre à 10h. Donc la nouveauté, c'est qu'il est ouvert en plus à l'international et donc à tout le territoire français également. Donc on n'est pas obligé d'habiter à Apt ou de venir à Apt spécialement pour y participer. Et ça donne une dynamique vraiment incroyable. Donc tous les films seront visible après en ligne et bien sûr au cinéma. Il y aura aussi une diffusion le lundi 15 novembre. Il y a un vote du public, il y a également un jury professionnel qui élit les 3 meilleurs films et donc les 4 films primés sont diffusés ensuite à la clôture du festival le 16 novembre. Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez aller sur notre site internet, sur notre page Facebook, c'est gratuit, vous tournez avec ce que vous voulez. Si vous êtes une équipe locale et que vous voulez une aide au montage, il y a une possibilité d'aide au montage le dimanche à la MJC à Apt. Il y a de très beaux prix à la clé. Le premier prix, c'est une caméra vidéo. Il y a des bons d'achat et disques durs. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a des partenaires qui nous offrent de très beaux prix. Et ça crée vraiment une belle dynamique pendant le festival.
Eh bien, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup.
Et la billetterie du festival sera ouverte à partir du 2 novembre sur notre site internet et ensuite au cinéma à partir du 10 novembre.
Un voyage au cœur de la musique.
L'ensemble Télémaque propose un spectacle original pour découvrir l'histoire de la musique en 66 minutes ou comment raconter la musique aux plus jeunes. Une balade illustrée à travers le temps et les styles. Deux rendez-vous, d'abord à Digne-les-Bains au Centre culturel le mercredi 10 novembre à 19h, puis à Manosque le 30 novembre. Entrée gratuite et passe sanitaire obligatoire. Directeur adjoint du Conservatoire à rayonnement départemental, Benoît Paillard présente l'événement. Puis nous entendrons le comédien Olivier Pauls. Reportage Odile Frison.
Benoît Paillard, l'actualité du Conservatoire avec un spectacle très bientôt au mois de novembre.
Oui, nous proposons avec l'ensemble Télémaque, qui est un orchestre de musique contemporaine qui réside à Marseille, nous proposons un spectacle de découverte de l'histoire de la musique, donc classique à contemporain, on va dire, mercredi 10 novembre. au Centre culturel René Char à 19h. L'entrée est gratuite. Le public attendu concerne les enfants et les familles. C'est une proposition qui est faite dans un cadre un peu plus large qui s'appelle Monde sonore en territoire. On reviendra à l'occasion sur ce projet-là. Mais en tout cas, l'ensemble Télémac est l'instigateur d'un projet régional de grande ampleur, de démocratisation de la musique contemporaine, mais aussi de la musique en général, de la musique qui a permis d'aller jusqu'à la musique contemporaine. Ce concert nous permettra de découvrir des œuvres de Bach à Ravel et de découvrir, grâce au comédien Olivier Paul, qui viendra mettre tout ceci en mots, le nom du plus grand compositeur de tous les temps. Vous pouvez prendre des renseignements pour éventuellement réserver une place au 04 92 31 52 36 et prendre des renseignements supplémentaires sur le site du conservatoire www.crd04.fr. Il y a aussi un Facebook du conservatoire sur lequel vous trouverez des informations.
Olivier Pauls, je vais vous demander de vous présenter.
Je suis comédien et aussi metteur en scène. Je travaille avec l'ensemble Télémac depuis une quinzaine d'années. À l'époque, je résidais à Marseille, mais maintenant je suis à Arles. J'ai rencontré Télémac et Raoul Lay, son directeur, chef d'orchestre et compositeur, autour d'un spectacle qui s'appelait Desperate Singers, un spectacle autour de Klaus Nomi, figure emblématique des années 80, des années Sida et de tout ça. Donc c'est un spectacle, c'était quasiment ma première mise en scène et on l'a faite au Bouffe du Nord à Paris. Donc c'était, comment dire, une rencontre choc avec Raoul et l'ensemble de Télémac. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Et puis, on a créé cette histoire de la musique en 66 minutes, il y a 5 ou 6 ans. Et comme Raoul et l'ensemble Télémac sont très à la fois dans la création avec des compositeurs internationaux, nationaux et internationaux, mais aussi dans l'action culturelle, beaucoup, et dans la pédagogie et dans la transmission et dans l'explication de la musique contemporaine, puisque l'ensemble Télémac a une vocation de musique contemporaine, mais pas que. Eh bien, ils ont eu cette idée, ou Raoul Lay a eu cette idée, de travailler avec les conservatoires de la grande région pour transmettre ce spectacle qui est pédagogiquement très intéressant, puisqu'il raconte l'histoire de la musique depuis Jean-Sébastien Bach jusqu'à Maurice Ravel. Donc ça fait 300 ans d'histoire musicale en 66 minutes.
Donc vous êtes à la mise en scène de ce spectacle ?
Non, moi je suis comédien. Dans cette création, je suis comédien, dans d'autres, je suis metteur en scène, des fois les deux. Et là, c'est Agnès Audifrin qui fait la mise en scène de ce spectacle, assez brillamment d'ailleurs, parce que c'est un challenge, tout est challenge dans ce spectacle, en fait. De raconter autant de choses en si peu de temps, de recréer un orchestre symphonique avec 9 musiciens, de faire les adaptations musicales qu'a fait Raoul qui sont extraordinaires, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un orchestre complet, de passer d'un personnage à l'autre, pour moi, c'est-à-dire d'incarner des figures qui sont quand même Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini, Wagner, etc., etc., Ravel, Debussy, Stravinsky, c'est énorme. Et puis pour Agnès, de mettre en scène ça, de trouver la cohésion et l'espace pour à la fois avoir un ensemble musical sur scène et donner à voir vraiment un moment de théâtre, c'était un gros challenge pour tous.
Est-ce que vous pouvez nous parler des musiciens qui seront auprès de vous ?
Alors, ils sont 9. Donc, il y a Charlotte Campana à la flûte, Blandine Baquet au bois, Linda Amrani à la clarinette, Christian Mignot percussion, Yann Leroux au premier violon, Jean-Christophe Selmy au second violon, Pascal Guérin à l'alto, Jean-Florent Gabriel au violoncelle, et Raoul Lay, qui a écrit le texte, qui a fait l'orchestration, qui dirige et qui joue du piano. On l'appelle le formidable homme orchestre. Et Agnès Audifrin, donc à la mise en scène. Ayant créé ce spectacle, je me suis dit, enfant et musicien à l'époque, j'ai commencé la musique assez tôt, j'aurais rêvé de voir ça. Parce que d'un seul coup, c'est une traversée incroyable, extrêmement vivante et incarnée, où on se rend compte de, non seulement de la vie des musiciens, de ce qu'ils ont dû traverser, qui est assez, à l'époque était assez rude quand même, et en même temps de voir l'évolution de la musique, c'est-à-dire de façon à la fois très pédagogique, mais aussi très narrative et dans l'imaginaire. Donc on n'est pas dans quelque chose d'ennuyeux comme une leçon ou quoi que ce soit, mais par contre on apprend, et même pour des adultes, on apprend énormément. Par exemple, on dit souvent que Jean-Sébastien Bach est un compositeur, un des plus énormes compositeurs de tous les temps. Encore aujourd'hui, la musique actuelle se base sur des trouvailles de Jean-Sébastien Bach. Mais une fois qu'on a dit ça, on dit bon, d'accord, si vous voulez. Là, dans ce spectacle, on a, comment dire, on a la résolution de cette chose-là de façon très simple, par l'explication du contrepoint, par exemple, en direct avec les musiciens. Et puis ensuite, on voit la rencontre, comment ces personnages, enfin, ces compositeurs se sont rencontrés ou non, et comment on passe de l'un à l'autre, et ce que chacun amène à chaque époque. comment la musique bifurque, quelles sont les influences, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup Stravinsky a eu envie de composer de cette manière-là, comment le jazz est venu le rencontrer, comment il était un peu en rivalité avec Maurice Ravel, hein, qui lui-même était dans une espèce de fantaisie, de maniaquerie. Stravinsky disait que c'était un horloger suisse, par exemple, il aimait bien. Et donc après, il y a le boléro, donc on a et on comprend ce qu'il veut dire. On voit comment les choses se sont construites de l'intérieur. Et c'est enthousiasmant et à voir et à interpréter.
Ça s'adresse vraiment à tous les publics, ouais. Qu'on soit amateur de musique ou non, qu'on soit parent d'élèves ou non.
Oui, c'est l'occasion rêvée pour rentrer au cœur de la musique sans effort et dans le plaisir et l'émotion, parce que c'est aussi un spectacle très émouvant, je trouve. Le texte est extraordinaire, c'est-à-dire arriver à expliquer sans avoir l'air d'expliquer, en incarnant tout en donnant des dates, etc., sans que ce soit laborieux, et c'est vraiment pas le cas. C'est une prouesse, moi je suis très fier et très heureux de participer à cette création.
Rendez-vous le 10 novembre à 19h au Centre culturel René Char. Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Tout à fait. Merci Olivier. À la semaine prochaine.